D'entendre cette mélodie à quatre voix. Pour ceux qui aiment les chœurs, c'est toujours une joie d'entendre. Et merci à ce groupe de louanges pour le temps qu'ils ont pris à préparer ces merveilleux chants, ainsi qu'aux enfants. Quelle bénédiction. Je voudrais commencer en lisant une prière. Je la fais mienne, mais je la fais pour nous tous. L'apôtre Paul, après avoir proclamé le plan merveilleux de Dieu, il dira ceci dans Éphésiens chapitre 1er, « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance, afin qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, il manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême de l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout et en tous. Le connaître, lui, connaître le Père, connaître le Fils que le Père envoyait, c'est connaître la vie éternelle, c'est connaître la puissance de sa résurrection. Telle est, bien aimé, la prière que je forme pour moi et pour chacun de vous ce matin. Le connaître, lui, et la puissance de sa résurrection. Bien-aimé, le Seigneur est mort selon les Écritures. Vous dites quoi? Amen. Oui, hein. Le Seigneur est ressuscité. Oui, selon les Écritures. Oh, c'était médiocre. On aurait cru un poisson d'avril quand vous avez répondu, il est vraiment ressuscité. Christ est ressuscité. Vraiment ressuscité. Ah, ça me rassure. Oui, hein. Selon les Écritures, il fallait que les deux choses soient unies. Christ mort, Christ ressuscité. L'œuvre n'aurait jamais été parfaite si Christ serait resté dans le tombeau. Ce matin, je n'ai pas la prétention de vous apprendre quelque chose de nouveau. Mais j'ai la conviction que la parole de Dieu va nous avertir, que la parole de Dieu va nous exhorter. Ce ne sera pas quelque chose qui va chatoyer nos oreilles. Mais c'est une parole d'exhortation pour moi et pour chacun d'entre nous. Que signifie pour moi connaître la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus. Bien sûr, une puissance de vie, une puissance de sa vie en moi, une puissance de vie pour l'éternité, mais une puissance de vie qui se réalise dans le quotidien, au point que je peux dire, en connaissant cette puissance de vie, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ le ressuscité, le vainqueur, celui qui a triomphé du mal, du monde, du péché et de la mort qui vit en moi. Vous savez que lorsque Jésus a expié nos péchés sur la croix du calvaire, le voile du temple s'est déchiré par le milieu, depuis le haut jusqu'en bas. Ce voile n'était pas un simple petit rideau usagé qui, quand on le cogne, se déchire. C'est un voile solide. Et pourtant, il s'est déchiré. Et ce n'était pas une petite ouverture par où l'on pouvait discerner l'arche qui était dans le lieu très saint. Ce n'était pas une petite ouverture par laquelle on pouvait voir le propitiatoire sur lequel, avec tremblement, le grand souverain sacrificateur rentrait une fois pour toutes avec le sang d'un agneau, une fois par an. Ou Dieu pouvait dire à ses sacrificateurs, à son souverain sacrificateur, n'entrez pas trop souvent, de peur que vous ne mouriez. Réaliser que le voile du temple s'est déchiré par la main de Dieu, c'est réaliser que nous avons accès librement au trône de la grâce. C'est réaliser que la présence du Seigneur, elle est au milieu de nous. C'est réaliser que la présence de Dieu en Jésus-Christ, elle est avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous, bien-aimé. Est-ce que vous saisissez le sens profond de la résurrection et de cette puissance que Dieu a manifestée? Si le voile du temple s'est déchiré, il y a eu, selon Matthieu 27, il y a eu aussi un tremblement de terre. Des rochers qui se sont fendus, il y a eu des morts qui sont sortis. Imaginez un peu, on va essayer de retracer la scène, que vous ayez assisté, voici quelques jours, quelques semaines, au dernier souffle d'un bien-aimé. Que vous ayez assisté à sa cérémonie d'enterrement. Que vous ayez assisté au fait qu'on l'ait déposé dans la terre ou dans un tombeau, qu'on ait mis de la terre sur lui, et puis un jour au matin, un dimanche, en vous promenant, voilà que vous rencontrez cette personne. Je ne sais pas comment vous réagiriez, et pourtant, ça s'est passé. Mais il a fallu un deuxième tremblement de terre. Le jour de la résurrection, pour que ceux qui étaient ramenés à la vie et qui étaient toujours dans les tombeaux, rentrent dans la ville. Ils sont apparus à ceux qui étaient de la ville. Combien sont-ils restés encore en vie? Je n'en sais rien. Comment sont-ils disparus? Je n'en sais rien. Et nous n'irons pas au-delà de ce que la parole de Dieu dévoile. Mais les choses certaines, c'est que ces personnes sont à nouveau, je vais inventer un mot, remortes. Elles sont mortes à nouveau. Et puisqu'il s'agit de saints qui ont été ressuscités, ils attendent le retour du Seigneur. Et là, à l'inverse de l'enlèvement de l'Église, où nous serons ravis dans le ciel, et nous allons goûter cette puissance de Dieu lorsqu'il va transformer nos corps à la ressemblance du corps glorieux du Seigneur Jésus, celui qu'il avait lors de sa résurrection, à la différence c'est que les gens d'alors, lorsque le Seigneur revient, ne vont plus me voir. Peut-être qu'ils me chercheront. Est-ce que vous ferez partie de ces saints, de ces enfants de Dieu qui seront enlevés dans la maison du Père? Ça, c'est l'espérance vivante. C'est l'objet de la prière que nous avons lue, afin que vous ayez en vous cette espérance vivante et que celle-ci vous transforme. Une vie transformée par le ressuscité. Une vie qui est sanctifiée pour son nom. Une vie qui, lorsque même je bois et je mange, une vie qui glorifie le Seigneur dans ses actes, aussi bénin soit-il, de mon quotidien. Pourtant, la parole de Dieu, si elle me dit que je suis vivant en Jésus-Christ, que je suis déjà ressuscité, elle m'appelle à mortifier, c'est-à-dire à me sanctifier continuellement. Si elle me parle que je suis sauvé, elle me parle aussi que je dois exercer dans ma vie le fait que j'ai cette espérance vivante. Ce message de la résurrection est un message pour moi, un message qui vient illuminer mes ténèbres, mes doutes. Un message qui est un message libérateur, qui me fait passer de l'esclavage, du péché, mais aussi de certaines passions morbides vers la vie du ressuscité, vers une vie abondante en Jésus-Christ. Vous connaissez certainement la signification de Pâques. Et pourtant, pour aller plus loin, permettez-moi de rappeler son sens, sa signification. Sinon, on va plus comprendre. Il y a une différence essentielle entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne. J'ai été voir dans plusieurs dictionnaires, parfois c'est avec S, parfois c'est sans S, c'est marqué comme nom masculin, comme nom féminin, peu importe. Quelle est la différence essentielle entre la Pâque juive, que le Seigneur va manger pour la dernière fois avec ses disciples, et dans laquelle il va instaurer la Sainte Cène, et qui est la Pâque que nous allons célébrer, c'est-à-dire sa résurrection. La Pâque juive, c'est le repas de souvenir de la libération du peuple de l'esclavage en Égypte. Et nous savons à quel prix il a fallu qu'un agneau soit égorgé avec des caractéristiques bien précises, et que le sang de cet agneau soit déposé sur les linteaux et les poteaux de la porte. Et quand l'ennemi, la mort, va passer sur toutes les maisons, qu'elles soient égyptiennes ou israéliennes, quels que soient les habitants, ceux qui n'avaient pas déposé sur leur porte le sang de l'agneau rencontraient la mort. Et encore aujourd'hui, les Juifs célèbrent la Pâque juive, mais ils la célèbrent avec un agneau mort, rôti, avec d'autres ingrédients, il est vrai. La différence pour nous, c'est que lorsque nous fêtons la Pâque, nous proclamons que Christ était mort. mais qu'il est vivant au siècle des siècles. La différence essentielle, c'est lorsque nous nous réunissons ensemble, nous nous réunissons autour d'un Seigneur qui est vivant. Il a été mort, mais il est vivant au siècle des siècles. La résurrection du Seigneur Jésus est un mot qui aujourd'hui reste dans le domaine du questionnement. Et j'espère que vous n'êtes pas de ceux, alors que nous venons de proclamer qu'il est vraiment ressuscité, qui sont toujours dans ce questionnement et qui sont toujours dans le « peut-être bien que oui ». Mais que vous avez la conviction que le doute a été chassé de vos pensées, que le Seigneur est vraiment ressuscité. L'expérience de la vie d'aujourd'hui affirme que tous les êtres passent de la vie à la mort, quel que soit l'âge. Il est souvent dit « et il mourut ». Et nous, nous proclamons l'inverse. Quand on est, quand on arrive sur cette terre, on est placé sur une voie sur laquelle il est marqué impossible de faire marche arrière. On se dirige vers le mur de la mort. On passe toujours dans notre vie de vie à trépas. Et si nous habitions chez les cannibales, je vous dirais qu'on passe de vie à repas. Mais jamais les hommes n'ont entendu que l'on passait de mort à vie. Et pourtant, c'est ce que l'Église et le croyant proclament aujourd'hui. Il y a un chemin possible de faire demi-tour. S'il n'en était pas ainsi, nous pourrions proclamer « mangeons, buvons, demain nous allons mourir ». Peu importe. C'est vrai dans un certain sens que nous allons mourir. Qui que nous soyons, athées, croyants, adeptes d'une quelconque philosophie, écoutez ce que Jésus dit. Jean chapitre 5, verset 26. Si vous pensez que vous allez mourir, écoutez ce que Jésus dit. Jean 5, verset 26. En effet, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et si nous lisions dans d'autres textes de l'Évangile, il a donné autorité au Fils de donner la vie à qui venait à lui. Verset 27. Il, le Père, a donné au Fils le pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est Fils de l'homme. Et si nous lisions un autre texte, nous verrions que Dieu a désigné un jour où nous allions passer, pour ceux qui ne croient pas en lui, devant le jugement. Verset 28. Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix, la voix du ressuscité. Tous. Verset 29. Ceux qui auront bien agi, c'est-à-dire ceux selon ce que Dieu dit, que veux-tu que nous fassions ? L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. L'œuvre de Dieu, c'est que vous soyez amenés à la repentance. L'œuvre de Dieu, c'est que vous manifestiez le fruit de cette repentance. Le fruit qui abonde parce que vous êtes unis à Jésus-Christ. Ceux qui auront bien agi, qui auront porté ce fruit, qui auront montré dans leur vie qu'ils sont réellement unis au ressuscité, ceux-là sortiront pour la résurrection et la vie. Une résurrection de vie. Ceux qui auront pratiqué le mal, c'est-à-dire qui auront nié Dieu, qui auront refusé l'offre de grâce, qui auront refusé de se repentir, trop orgueilleux d'eux-mêmes, qui auront refusé Jésus-Christ et de s'unir à lui, ceux-là ressusciteront pour la mort. Bien-aimés, loin d'aller dans le sens du poil, la parole de Dieu veut nous prendre au sérieux et ramener nos consciences et nos cœurs à une vraie réalité. C'est ce que l'apôtre Paul écrit dans l'Épître aux Corinthiens et au chapitre 15, dont nous avons déjà énoncé les premiers versets par cœur. Christ est mort selon les Écritures, Christ a été enseveli, Christ a été placé dans le tombeau, Christ est ressuscité, réellement ressuscité, selon les Écritures. Et les versets qui suivent dépeignent, ou plutôt racontent, toutes les personnes à qui ce Seigneur ressuscité, qui a repris la vie par la gloire du Père, est apparu. Et je lis au verset 16. Si les morts ne ressuscitent pas, or nous venons de lire que on ressuscite pour la vie ou pour la mort. Si les morts ne ressuscitent pas, alors Christ n'est pas non plus ressuscité. Puisque nous proclamons la certitude qu'une parole digne de confiance, de vérité, que Christ est ressuscité, alors nous devons croire que nous sommes destinés à vivre éternellement. Qui que nous soyons, la question à se poser, c'est où et comment. Verset 17, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Il n'y a pas de justification pour le croyant. Même s'il est uni à Christ dans sa mort, à quoi sert de croire en un Seigneur qui a accompli une œuvre très belle, parfaite, mais qui n'est pas ressuscité? Serait-ce pour cette terre seulement, j'espère? Alors, je suis malheureux. Vous êtes encore, verset 17, la fin, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, et vous êtes encore dans vos péchés. Parce que c'est la résurrection de Jésus-Christ qui proclame que Dieu atteste son œuvre parfaite et qu'il justifie ceux qui sont unis à lui dans sa mort. Nous sommes, bien-aimés, rendus justes aux yeux de Dieu par la résurrection de Jésus-Christ. Verset 18. Ceux donc aussi qui sont endormis en Christ sont aussi morts, sont aussi péris, comme dit la version. Si c'est pour cette vie seulement que nous avons cette espérance en Christ, nous sommes les plus misérables des hommes. Bien-aimés, il nous appartient de serrer cette vérité profonde. Christ est mort, Christ est ressuscité, de la serrer dans notre cœur, il fallait que l'Écriture s'accomplisse. En quoi, et tel est le thème, en quoi cet événement de la résurrection du Seigneur Jésus, et bien sûr de sa mort, un événement unique sur la terre, m'interpelle aujourd'hui. En quoi est-ce que cela va changer ma vie? En quoi est-ce que cela fera que ma conscience et mon cœur seront jour après jour renouvelés par cette vie du ressuscité? En quoi est-ce que je vais devenir un ouvrier de l'Église, un ouvrier du Seigneur Jésus, un co-ouvrier de Dieu dans son champ? Est-ce que la résurrection du Seigneur Jésus a cette influence en moi, en chacun de nous, dans l'Église? Ou est-ce que je suis toujours oisif? Vous vous dites peut-être aujourd'hui, à quoi bon? Aujourd'hui je vis, laissez-moi vivre. J'ai le temps de penser à plus tard, à la mort. La mort ne m'intéresse pas, ok, ça va, c'est votre droit quoi. Mais sachez une chose, c'est que la mort s'intéresse à vous. Que nous le voulions ou non, la mort est le dernier ennemi qui vous poursuit. Et cet ennemi, c'est la mort. Alors pourquoi je me suis posé la question et je la pose à chacun de nous, pourquoi est-ce que cette mort est-elle mon ennemi? Parce que la mort physique met fin à ce que je suis. Je vais retourner à la poussière. Parce que la mort physique met fin à tout ce que j'ai acquis sur la terre. Ma maison, ma BMW ou ma Clio, mon compte en banque, mes investissements, mon beau salon sur lequel je peux m'étendre, mes bijoux. La mort met fin à mes projets heureux. Elle met fin à mes relations de famille. Elle met fin à mes relations amicales. La mort me dépouille de tout. Bien-aimés, avons-nous compris que la mort, elle est notre ennemi? Et qu'ici, je me base uniquement sur ce fait, je suis malheureux. J'ai le droit de pleurer, de me lamenter. Je suis misérable. Mais permettez-moi de vous dire que Christ est ressuscité. Et grâce à lui, la mort est vaincue. Alors, je vais reprendre 1 Corinthiens chapitre 15 sans aller au-delà, mais voilà. 1 Corinthiens chapitre 15, et je voudrais lire avec vous le verset 54 à 58. Lorsque ce corps corruptible, misérable, aura revêtu l'incorruptibilité, le corps de gloire. Bien aimé, j'ouvre une parenthèse. On a parlé tantôt de la résurrection des morts pour la mort, c'est-à-dire pour un lieu loin de la félicité de Dieu. Vous êtes d'accord ou non avec moi, c'est mon avis. Je sais que la parole de Dieu dépeint ce lieu comme un lieu de tourment, un de remords, d'un feu qui dévore. Mais au fond de mon cœur, je crois que la résurrection pour la mort, pour ceux qui ne sont pas attachés à Jésus-Christ, ils vont ressusciter avec un corps non glorifié. Imaginez-vous vivre l'éternité, bien sûr avec les remords, mais l'éternité dans un corps qui va davantage se dégrader. Parce que là, dans ce lieu, le péché existera, incarné par le diable et ses anges. J'ose pas imaginer que ma vie sur la terre se prolonge avec encore ma polyarthrite, avec des reins qui saignent, avec les poumons qui n'en peuvent plus de mycose, avec mes lunettes qui me dérangent, ou je ne sais pas comment les mettre. Parfois, je dois les mettre ainsi parce que ma dioptrie change avec la cortisone. Je n'imagine pas vivre l'éternité comme ça. Et nous lisons, ouais, je ferme la parenthèse. Bon. Voilà. Voilà, lorsque ce corps, verset 54, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Comme dans un match de football, les jeunes, quand le Standard gagne, victoire. C'est vrai, hein, t'as raison. Bien-aimés, quand le Seigneur revient, nous allons, j'espère que vous serez du nombre qui peuvent dire, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais, un mec qui rectifie, mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ, entre parenthèses, le grand vainqueur, celui qui est sorti du tombeau. Et je parlais tantôt des conséquences de la résurrection. Voilà le verset 58. Ainsi, c'est donc bien une conséquence de ce qui était proclamé dans les versets précédents. Ainsi, mes bien-aimés, mes frères, mes sœurs, soyez fermes, solidement ancrés dans cette espérance, dans cette vie de Christ. Soyez inébranlables, ne soyez pas comme des enfants ballottés à tout vent de doctrine, à tous ceux qui disent peut-être qu'il est ressuscité. Non, soyez inébranlables dans cette certitude, Jésus est ressuscité. Conséquence, soyez donc inébranlables, fermes, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Quelles conséquences de savoir et de connaître la puissance de la résurrection dans ma vie d'aujourd'hui. On arrête d'être oisif. Le Seigneur de gloire cherche des ouvriers dans sa moisson. Aujourd'hui, le monde propose des chômeurs. Ça n'existe pas dans le chantier de Dieu. On a tous besoin les uns des autres et le Seigneur cherche des ouvriers. Alors qu'est-ce que tu fais? Si tu proclames que tu es ressuscité, qu'est-ce que tu fais? Un auditeur? Amen. Il s'engage. Bien-aimé, que notre réponse, Seigneur, je suis prêt. Tu m'as rendu vivant, tu m'as fortifié. Je m'engage à ton service. Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon Sauveur, qu'il est doux le sacrifice que m'offre mon cœur. Pour comprendre le sens profond de cette parole de victoire, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Permettez-moi de parler de la mort, pour qu'on sache de quoi on va ressusciter. La parole de Dieu nous parle de la mort sous deux angles, sous deux visages. Elle nous parle de la mort spirituelle, et elle nous parle de la mort physique. La mort spirituelle, nous venons de le lire, elle nous dépouille de tout. C'est un corps qui est mort. Et dès lors, nous sommes dépouillés. L'homme est dépouillé de ses biens. Et quand on parle de la mort physique, est-ce que vous avez compris que l'on en parle toujours au futur? Et on espère toujours qu'elle sera reculée. Ne nous en faites pas. La science médicale fait d'énormes efforts de recherche pour constamment reculer l'âge où vous allez donner votre dernier souffle. Mais voilà, c'est pas possible d'arriver à une vie éternelle. Il faut mourir. Et puis la parole de Dieu nous parle de ce qui est la source de cette mort physique, parce qu'elle utilise cette mort physique comme étant une image, un pâle reflet d'une réalité aux conséquences beaucoup plus graves. Elle nous parle de la mort spirituelle. Et si la mort physique est parlée au futur, la mort spirituelle vient du passé. Et on n'y échappe pas. Elle vient d'Éden, du premier homme, Adam, par qui, à cause de la désobéissance de nos premiers parents, ils ont généré la mort parmi tous les hommes. C'est-à-dire une mort spirituelle, parce que, allez, soyons honnêtes, est-ce qu'Adam est décédé tout de suite? Non. Il est resté vivant 963 ans. Mais ce qui a été immédiat suite à la désobéissance, c'est que le jardin lui était coupé. La communion avec Dieu lui était coupée. Et Adam a eu peur. Bien-aimés, nous avons tous reçu cet héritage sans distinction. Si Adam n'est pas mort physiquement, j'ai dit 960, mais c'est 930. 930 ans, merci. Ce qui est certain, c'est que nous sommes tous atteints de ce que la parole de Dieu déclare, atteints de la seconde mort. Et la seconde mort, elle se passe lors de la résurrection. Tous entendront la voix du ressuscité. Certains ressusciteront pour la vie, d'autres ressusciteront pour la seconde mort, ayant négligé la grâce de Dieu. Cette mort spirituelle n'a pas besoin d'un suaire, elle n'a pas besoin d'un linceul, elle n'a pas besoin d'un cercueil, elle n'a pas besoin d'un trou. Il n'y a personne qui porte le deuil. Et pourtant, elle est réelle. Retenez ceci, la mort spirituelle, la mort physique nous dépouille des biens de la terre, la mort spirituelle nous dépouille des biens du ciel. Pas de relation. C'est le péché qui met une cloison entre Dieu saint et moi, à cause de mon péché. Et dès lors, il fallait que ce péché disparaisse pour que je reçoive l'accès au ciel. Comment parlez-vous, bien-aimé, de la mort spirituelle que vous avez héritée? C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Comment en parlez-vous? Comme quelque chose qui a été réglé dans votre vie? Quand je lis l'apôtre Paul aux Éphésiens, vous étiez, il écrit à des chrétiens, vous étiez mort, vous étiez, c'est pas vous êtes, vous étiez. Et Paul de dire, mais moi aussi, nous étions tous morts dans nos fautes et dans nos péchés. Et nous faisions partie tous du nombre des hommes, morts spirituellement. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts spirituellement, par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec le ressuscité, avec Jésus-Christ. Et l'apôtre de dire, et nous sommes déjà ressuscités. On est déjà glorifiés. On est déjà assis dans les lieux célestes. Aujourd'hui, assis sur les bancs, là en face de moi, sur les chaises. Mais notre foi salue déjà le fait accompli. Que nous sommes déjà dans le cœur de Dieu, assis avec Christ dans le ciel. Est-ce que la résurrection de Jésus-Christ vous donne cette certitude aujourd'hui par la foi dans un clin d'œil? Quand Jésus le veut, assis de fait dans la maison du Père. La mort physique, elle est temporaire. La seconde mort, pour ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ, elle est éternelle. Y a-t-il une échappatoire à cette mort éternelle? Non. Pas à vue humaine, en tout cas. C'est uniquement par la grâce de Dieu. Uniquement. Alors, bien-aimés, n'est-ce pas là une bonne nouvelle en ce jour de Pâques, de dire que la mort spirituelle qui nous amène directement dans ce lieu que la parole décrit comme un lieu de tourment, où il y a il y a plein de trucs là, encore pire que sur la terre, comment pouvons-nous parler de cette mort spirituelle au passé ou au présent? Ô mort, où est ta victoire? Où est la victoire de cette mort? Victoire sur le diable. Jésus aurait pu se laisser arrêter par le diable. Que de fois le diable a essayé de l'arrêter, ne serait-ce que dans ce désert où il l'a tenté. Et le diable n'est pas arrivé à ses fins. Que de fois les hommes ont essayé d'arrêter son parcours sur la terre, pour le lapider, pour le mettre à mort. Que de fois les hommes ont dit, descends de la croix et nous croirons en toi. Si Jésus avait obéi à ces hommes, nous serions toujours morts dans nos fautes et dans nos péchés. Mais le Seigneur Jésus a été victorieux du monde, de l'esprit de ce monde. Et parmi la troupe des disciples, il y en avait un en particulier, Pierre, à qui Jésus discerne l'esprit du monde en train de l'animer. Seigneur, c'est quoi? Jamais pour toi. Et le Seigneur de dire à Pierre, arrière de moi, Satan. Le Seigneur Jésus n'a pas obéi au monde, n'a pas obéi aux hommes. que de fois le monde et les hommes ont voulu l'arrêter. Il a été vainqueur du péché. Et là, il faut se rappeler ces trois heures sombres de la croix. Les ténèbres sont profondes, épaisses sur cette terre. Et, pour dire que je dois arrêter, on va écourter. Il y a d'épaisses ténèbres sur cette terre. Et là, Jésus rentre en compte avec ma condamnation, avec la colère de Dieu que je méritais, avec mon châtiment. Si c'était que moi, mais c'est le châtiment de tous les hommes. Le châtiment de ma paix, de ma réconciliation avec Dieu est tombé sur lui. Et pouvons-nous comprendre cette souffrance spirituelle? Lui, le Saint, le Juste, qui est fait péché pour nous, s'éclare, s'écrie, « mon Dieu, mais pourquoi m'as-tu abandonné ?» Tu n'as pas abandonné le psaume 22, tu n'as pas abandonné ton peuple, pourtant au cou raide et désobéissant. Et moi qui ai toujours fait délice, mon Dieu, mais pourquoi m'as-tu abandonné? C'est pour qu'il en sorte victorieux sur le péché et qu'il nous entraîne à sa suite dans cette victoire. Nous sommes par lui plus que vainqueurs. Si l'œuvre de Jésus s'était arrêtée à ces trois heures sombres, c'est foutu. On aurait une espérance pour la terre et pas au-delà. Mais il fallait ajouter le triomphe sur la mort. Le matin de Pâques, la victoire sur la mort s'est manifestée et nous la voyons maintenant. Ô mort, où est ta victoire? Juste quelques mots. Ô mort, où est ton aiguillon? Je prendrai une image pour parler de cet aiguillon. Cet aiguillon, c'est un harpon. Il est comme le dard d'une abeille. D'une abeille ouvrière ou d'un frelon, dont le dard est un véritable harpon. Et quand l'abeille ouvrière ou le frelon vous pique, on le sent, et en plus, la peau de l'homme se resserre, et l'abeille ne sait plus retirer son dard, plus elle laisse une partie de ses viscères dans la peau de l'homme. Et elle est vouée à la mort. Elle peut encore faire peur, mais elle n'a plus de pouvoir. Bien-aimé, à la croix, le Christ a été piqué par Satan. Le Christ a été piqué par la mort. Il a reçu l'aiguillon de la mort. Dans sa chair, dans son âme en agonie, le dard de la mort a été planté dans la chair du Seigneur Jésus. Il aurait pu rester dans la tombe, mais non. Il est sorti vainqueur, victorieux. Et dès lors, nous pouvons vivre de la vie de Jésus-Christ, de ses ressuscités, et être plus que vainqueur par celui qui me fortifie. Osons prier les uns pour les autres, pour que nous ayons cet esprit de sagesse, comme on l'a lu tantôt. Que nous ayons cet esprit de puissance qui se trouve dans la résurrection du Seigneur Jésus, manifesté par Dieu en ressuscitant son Fils bien-aimé d'entre les morts. Conclusion. Es-tu au clair quant à ta mort spirituelle? En parles-tu comme quelque chose du passé, ou est-ce qu'aujourd'hui tu es toujours tiraillé dans ta conscience par le dard de cette mort spirituelle? Es-tu au clair quant à la mort du Seigneur Jésus pour tes péchés? Mais es-tu aussi et en plus au clair quant à sa résurrection? Possèdes-tu avec ce ressuscité une relation forte, puissante, vivante? Au point que quand on te voit vivre, on ne te voit plus toi. On voit celui qui régit ta vie en toi. Si tu es ressuscité, où est-ce que ton cœur est? Aux choses d'en bas ou aux choses d'en haut? Jésus a dit, celui qui a soif, soif de cette vie, qu'il vienne à moi. Et il y a des fleuves d'eau vive qui couleront de son sein. Des fleuves de vie, des fleuves du ressuscité, des fleuves de victoire qui vont sortir de notre sein. Si tu es ce matin encore indécis dans le pourquoi, écoute le conseil de Dieu. Je place aujourd'hui devant toi la vie et la mort. Et il te dit, choisis la vie, choisis-moi, choisis Jésus-Christ, sois attaché à lui. Conséquence, ne restons pas oisifs. Le champ est grand, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Est-ce que vous vous considérez comme un ouvrier dans le champ de Dieu? Ce serait une des preuves comme quoi vous êtes ressuscité. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ah oui, j'avais une petite histoire, je clôture, voilà, elle est rigolote, ça vaut la peine. Il y a un gamin, bon, elle n'est pas de moi, je l'ai entendu, donc je la répète. Il y avait un gamin qui revient de l'école et son papa lui dit « Et alors, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait ?»« Rien. »« Ah bon ? » ?»« T'as pas fait de bêtises ?»« Non, rien. » »« T'as fait quelque chose de bien ?»« Non. » »« Qu'est-ce que tu as fait ?»« Bah, j'ai été cool. » Qu'est-ce qu'on va mettre si un jour, si le Seigneur tarde dans sa patience à l'égard de ce monde, que va-t-on mettre sur l'épitaphe de votre tombe? Ici, gît un chrétien qui a vécu cool. J'espère que c'est pas ça. Que le Seigneur bénisse sa parole et vous fortifie.